On behalf of the General Assembly.
Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence, Monsieur Sébastien Piñera, président de la République du Chili, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président.
Muy buenos días.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord et avant tout féliciter le Président, Monsieur John Ash, éminente personnalité publique de notre région, de sa récente élection à la présidence de cette 68e session de l'Assemblée générale. Je souhaite également exprimer toute ma solidarité au peuple et au gouvernement mexicain, compte tenu des catastrophes récentes, et j'exprime également toute ma solidarité avec le peuple et le gouvernement kényan, suite aux récents attentats. Durant cette session, les chefs d'État et de gouvernement provenant des quatre coins de la planète ont la possibilité de partager des points de vue, des expériences et, plus important encore, d'imprimer l'élan indispensable pour bâtir tous ensemble un monde qui soit à la hauteur des attentes et des rêves des habitants de la planète. En fin de compte, l'inspiration qui a conduit à la création des Nations Unies il y a déjà près de 70 ans consistait précisément à disposer d'une organisation permettant d'harmoniser les efforts de toutes les nations pour parvenir à la paix et au développement. Un lieu dans lequel chacun, toutes les nations, tous les peuples du monde, quel que soit le drapeau que nous nous engageons à honorer, quel que soit le Dieu que nous souhaitons adorer ou les idées que nous décidons d'épouser, que chacun, disais-je, se sente membre d'une même famille, la grande famille humaine. Nous devons, pour ce faire, nouer un dialogue qui ne doit pas craindre les dissensions, qui doit plutôt leur accorder leur juste valeur et se nourrir d'elles, car ce n'est qu'ainsi que les nations et les cultures pourront joindre leurs efforts. Monsieur le Président, nous vivons dans un monde nouveau, un monde très différent de celui qui a vu naître les Nations Unies et d'autres organisations telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce nouveau monde n'est pas le fruit de la guerre ni des luttes idéologiques qui s'en suivirent durant cette deuxième moitié du XXe siècle. Ce nouveau monde est le fruit d'une nouvelle révolution, la révolution de la connaissance, de la science, de la technologie et de l'information qui, depuis plusieurs années déjà, frappe à notre porte et crée des perspectives de progrès matériel et spirituel pour des milliards d'hommes et de femmes dans le monde, dont très peu pouvaient s'imaginer l'existence il y a quelques décennies. Ce nouveau monde n'est plus divisé par des murs et par des rideaux de fer. Ce nouveau monde est interconnecté par les ponts créés par la mondialisation et par les échanges et la circulation de plus en plus libre de biens, de services, d'idées et de personnes. Et indubitablement, ce nouveau monde doit également relever des défis, se trouver confronté à des difficultés et saisir des occasions tout aussi nouvelles et qui, bien souvent, transcendent les frontières et les juridictions de chaque pays. Et lorsque l'heure est venue de surmonter ces difficultés, il est parfois difficile de savoir où s'achèvent les responsabilités des uns et commencent les responsabilités des autres. En conséquence, nous ne pourrons surmonter ces difficultés avec succès que si nous unissons nos efforts et assumons tous nos responsabilités respectives. Toutefois, bien que notre monde avance à pas de géant, nombre de nos organisations internationales semblent hésiter à évoluer à la même cadence. renonçant ainsi à être les acteurs ou architectes des changements et se contentant d'être de simples spectateurs. L'article 1er de la Charte des Nations Unies cite parmi ses objectifs primordiaux le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement des relations amicales entre les nations, la promotion de la coopération internationale dans les domaines économiques, sociaux, culturels et humanitaires, ainsi que le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales, sans aucune distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Mais que les choses soient claires, aucun de ces principes ne saurait constituer l'apanage d'une nation, d'une époque ou d'une organisation. Tous ces principes émanent du plus profond de l'âme et du cœur humain. En conséquence, nous ne sommes pas simplement ici pour proclamer la valeur ou l'existence de ces principes, mais pour garantir leur respect et leur actualité. En conséquence, l'appel que nous lançons ne vise pas à modifier ces valeurs, encore moins à les oublier. Notre objectif est plutôt d'afficher la volonté nécessaire et de faire montre du courage requis pour mettre ces principes en pratique. Nous devons, pour ce faire, améliorer, perfectionner nos démocraties, renforcer la participation au niveau local, mais également moderniser une fois pour toutes nos organisations régionales et mondiales, une tâche qui, comme nous le savons tous, est loin d'être terminée. Et pour nous lancer dans cette entreprise, nous devons d'abord et avant tout procéder à une véritable réforme en profondeur du Conseil de sécurité de l'organisation pour élargir et accroître le nombre de membres permanents et non permanents, pour garantir une représentation régionale appropriée et pour renforcer, rendre plus transparente ses méthodes de travail et sa prise de décision, afin que le Conseil devienne plus efficace et plus légitime dans les actions qu'il entreprend. En ce sens, mon pays, le Chili, un pays qui, en 1945, a participé à la création des Nations Unies, appuie la désignation du Brésil, de l'Allemagne, du Japon et de l'Inde comme membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, de même que nous appuyons la requête du continent africain qui souhaite bénéficier d'une juste représentation. Et nous rallions également aux appels lancés afin que les 5 pays dotés du droit de veto s'abstiennent d'utiliser ce droit de veto en cas de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide et nettoyage ethnique. En effet, le recours au veto, en l'espèce, diminue l'efficacité du Conseil pour défendre des valeurs fondamentales pour la bonne marche de l'humanité. De surcroît, nous estimons que la réforme du Conseil ne se termine pas ne concerne pas simplement le changement de sa composition. Il s'agit également d'aller au-delà de la logique des vétos. Et nous devons faire en sorte que les décisions les plus pertinentes dans le domaine de la sécurité internationale puissent être prises de façon véritablement représentative. Toutes les nations représentées ici dans cette organisation doivent ainsi être prises en compte. En fin de compte, si nous œuvrons dans le sens de la démocratie, du dialogue et de la participation lorsque nous gouvernons nos pays, nous devons épouser les mêmes principes et les mêmes valeurs lorsque nous adoptons des décisions aux Nations Unies. Monsieur le Président, je souhaite également saisir l'occasion de ma présence ici pour me féliciter des multiples manifestations de soutien en faveur de la candidature du Chili au Conseil de sécurité pour les 2 années à venir. Et je souhaite une nouvelle fois dire que nous sommes fermement attachés aux principes et valeurs qui, depuis des décennies, régissent notre politique extérieure. Et je souhaite en particulier insister sur le strict respect du droit international, sur l'inviolabilité des traités, sur l'égalité juridique entre les États, le règlement pacifique des différends et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Autant de valeurs qui constituent les fondements indispensables de la stabilité internationale et de la coexistence pacifique entre les nations. Néanmoins, ces principes se doivent également d'aller de pair avec le principe ou la notion de responsabilité de protéger. Cette responsabilité de protéger est considérée comme le devoir premier de chaque État, qui se doit de protéger sa population dans le cadre de ses frontières. Et si un État ne peut pas ou ne souhaite pas s'acquitter de ce devoir essentiel, la communauté internationale peut intervenir sur la base des trois piliers reconnus par tous, à savoir la prévention, le soutien et l'emploi proportionnel de la force, conformément à la Charte des Nations Unies. Cette force étant utilisée en dernière instance et lorsque ceci est absolument et strictement indispensable pour prévenir et faire cesser des génocides, crimes de guerre, nettoyage ethnique ou crimes contre l'humanité. En outre, une nouvelle fois, mon pays réaffirme son profond attachement à la démocratie, au respect des droits de l'homme de tout être humain, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous appuyons par ailleurs le multilatéralisme ainsi qu'un régionalisme ouvert et la concurrence économique constructive et loyale entre nos pays. À cet égard, nous demandons une nouvelle fois qu'il soit mis un terme à la prolifération des armes nucléaires et de destruction massive. Mais nous demandons également des progrès sur la voie du démantèlement des armes existantes. Et nous condamnons dans les termes les plus fermes le recours aux armes chimiques en Syrie ainsi que l'emploi d'une force aveugle contre la population civile syrienne. Ce qui, jusqu'à présent, a fait des milliers de victimes innocentes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, sans oublier la grave crise humanitaire qui indubitablement pèse sur la conscience universelle et menace de surcroît sérieusement la paix et la sécurité internationale. De la même façon, nous appuyons très clairement l'accord cadre pour l'élimination des armes chimiques en Syrie, dont nous nous félicitons. Il a été conclu récemment entre les États-Unis et la Russie et nous saluons par ailleurs les efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies, par l'envoyé spécial conjoint des Nations Unies et la Ligue arabe pour parvenir au plus tôt à une solution pacifique et un règlement définitif de ce conflit armé fort grave qui dure depuis trop longtemps. Dans ce même ordre d'idées, le Chili a toujours défendu, et il continuera à le faire, la cause et le droit du peuple palestinien à avoir un État libre et démocratique. Un État qui, à l'instar de l'État d'Israël, puisse jouir de frontières reconnues, acceptées et sûres avec tous ses voisins, permettant à ses habitants de vivre et de grandir dans la paix et la sécurité qui se doivent d'être stables et durables. Par conséquent, nous avons reconnu la Palestine comme membre observateur des Nations Unies. Nous espérons pouvoir très bientôt lui souhaiter la bienvenue en tant que membre à part entière de cette organisation. À l'échelon régional, en mars 2012, le Chili a souscrit le protocole d'attachement à la démocratie avec les pays membres de l'Union des Nations d'Amérique du Sud, UNASUR, et nous attendons l'entrée en vigueur de ce protocole dans les plus brefs délais. En outre, nous avons réexprimé notre adhésion à la Charte démocratique interaméricaine et nous ne nous lasserons pas de nous faire les chantres de la cause de la démocratie, de la liberté et du respect sans limite des droits de l'homme dans tous les pays de notre continent. Le Chili a assumé la présidence intérimaire et a accueilli le sommet de 33 États d'Amérique latine et des Caraïbes en janvier passé, ce qui nous a permis de souscrire à la déclaration de Santiago dans laquelle la région s'est dit attachée aux valeurs démocratiques, au respect des droits de l'homme. Nous avons également présidé le premier sommet conjoint entre les chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Europe, rencontre durant laquelle les pays des deux côtés de l'Atlantique se sont engagés à progresser en matière de politique de développement durable pour promouvoir des investissements de qualité dans le domaine social et le domaine de l'environnement. Dans le domaine social, et bien qu'il reste encore 2 ans avant d'atteindre l'échéance stipulée, nous pouvons indiquer avec satisfaction que le Chili a atteint pratiquement tous les objectifs du millénaire pour le développement fixés par l'Organisation des Nations Unies en l'an 2000. Et nous continuerons à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs encore inachevés avant 2015, en collaborant avec d'autres pays qui ont demandé notre aide, pour que ces pays puissent également réaliser les objectifs, et tout en participant activement au sein des Nations Unies à la mise en place d'un nouveau programme de développement durable pour l'après 2015. Ce programme sera assorti de nouveaux objectifs, définira les responsabilités concrètes, mesurables, audacieuses et faisables, tant pour les pays développés que pour les pays en développement. Et nous mettrons l'accent sur le développement social et la protection du développement. Avec le Mexique, la Colombie et le Pérou, nous avons également participer à la formation de l'Alliance du Pacifique, une des initiatives d'intégration les plus marquées dans la région, encourageant une zone de libre circulation des biens, des services et des capitaux, mais également des personnes, ce qui permet d'avoir un taux de croissance plus élevé et ce qui offre à nos peuples et nos pays de plus grandes perspectives d'avenir. Avec une grande satisfaction, nous constatons que cette alliance du Pacifique, qui représente une population de plus de 210 millions de personnes, un tiers du PIB du continent américain et plus de la moitié de son commerce extérieur, montre, nonobstant sa jeunesse, qu'il est possible d'obtenir des résultats importants. Et cela a suscité l'intérêt de la communauté internationale. 20 pays participent déjà en tant qu'observateurs. Signalons parmi eux l'Australie, le Canada, l'Espagne, la Chine, les États-Unis et le Japon. Enfin, je voudrais souligner l'approbation récente par notre Congrès de la loi qui élimine les droits de douane frappant les importations de biens venant des pays les moins avancés, selon la définition des PMA choisie par les Nations Unies. Ceci est une preuve d'engagement et de solidarité très nette du peuple chilien en faveur du développement de près de 50 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes. Monsieur le Président, il y a quelques jours, nous avons au Chili commémoré le 40e anniversaire de l'interruption la plus profonde et durable qu'ait connue notre démocratie en nos 2 siècles de vie depuis l'indépendance. Et cette époque a été marquée par la haine, les divisions, les clivages, non seulement au Chili, mais également dans un monde marqué et divisé par la guerre froide. Mais dans quelques jours, le 5 octobre, nous allons également au Chili commémorer un autre anniversaire, le 25e anniversaire du rétablissement pacifique de notre démocratie, grâce à la volonté libre et souveraine de l'écrasante majorité de Chiliens, et ce de façon pacifique et avec le concours et l'assentiment de tous les secteurs et couches de population de notre pays. Ces 2 expériences nous ont permis au Chili de tirer des enseignements que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. En effet, je crois, en toute humilité, que ces enseignements peuvent aider à résoudre les conflits dans d'autres régions du monde. Premièrement, nous devons reconnaître sans réserve que même dans des situations extrêmes, y compris les guerres civiles, les guerres avec d'autres pays, certaines règles doivent être respectées par tous, combattants et non-combattants, civils et militaires. Il doit être impossible de se soustraire à ces règles. Et je pense aux droits de l'homme, de chacun, en tout temps, en tout lieu et dans toutes les circonstances. Deuxième enseignement, la démocratie, la paix, l'amitié entre les citoyens sont des valeurs plus fragiles que ce que nous pensons généralement, si bien que nous ne devons jamais considérer ces valeurs comme étant des acquis. Il s'agit finalement d'un arbre qui doit être arrosé au quotidien pour éviter de se flétrir. Et nous devons ainsi faire bien attention aux mesures qui sont prises, aux mots qui sont utilisés, aux gestes, à la façon dont nous agissons. Tout ceci doit respecter les impératifs de la vérité, de la justice, de la réconciliation et de la paix. Troisième enseignement, il existe un lien très étroit entre la qualité de la démocratie, le progrès économique et la justice sociale, étant donné que tous ces facteurs sont interdépendants, se renforcent mutuellement. Il suffit qu'un de ces piliers tremble pour que, tôt ou tard, tout l'édifice ne se fragilise. Par conséquent, notre défi consiste non seulement à renforcer nos institutions démocratiques, mais aussi à promouvoir des politiques économiques et sociales fondées sur la liberté, la responsabilité, la justice, l'égalité des chances et la lutte contre la pauvreté, en conjuguant les forces publiques et privées et en respectant les droits fondamentaux, étant donné qu'il s'agit là des principales sources de développement de nos peuples et nations. Et le quatrième enseignement que nous avons tiré dans notre pays, c'est que le passé est déjà écrit. Nous pouvons en discuter, nous pouvons l'interpréter, et bien évidemment, nous pouvons nous en rappeler, mais nous ne pouvons pas le changer. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit de rester les prisonniers du passé. En effet, lorsque le présent reste ancré dans le passé, ce que nous perdons, c'est l'avenir. C'est la raison pour laquelle notre génération, la génération qui a fêté les 200 ans de notre pays, n'a pas le droit de léguer aux générations futures les mêmes haines, les mêmes querelles, les mêmes divisions qui ont causé autant de maux et de souffrances il y a déjà 40 ans. Par conséquent, le défi que nous devons relever, ce n'est pas d'oublier ce qui s'est passé, mais c'est de surmonter le passé, en faisant montre d'un nouveau courage, en adoptant une attitude positive, mue par l'espoir, en essayant de tirer les enseignements de l'expérience pour éviter de reproduire les erreurs du passé et pour affronter de façon plus volontaire et efficace les problèmes de l'avenir et saisir nos perspectives d'avenir. Ces enseignements et d'autres enseignements, nous les avons appris dans la douleur. Cela nous a permis de retrouver de façon pacifique le chemin de la démocratie et d'avancer sur ce chemin vers la vérité, la justice et la réconciliation nationale. C'est une transition qui appartient désormais au passé, une transition que nous avons connue, que nous avons menée à bien. Aujourd'hui, les Chiliens sont confrontés à une autre transition, une nouvelle transition, axé sur l'avenir, une transition qui nous permettra d'ici à la fin de la décennie de faire du Chili un pays développé, un pays sans pauvreté, un pays pleinement intégré dans la communauté des nations démocratiques et développées. Ce sont là les engagements que le gouvernement que j'ai l'honneur de présider a contracté avec tous les Chiliens il y a près de 4 ans. Et nous sommes heureux de voir les progrès solides et durables que nous avons accomplis sur cette voie. En effet, nonobstant le séisme dévastateur et le raz de marée qui nous a touchés en 2010, la 6e catastrophe de ce type la plus grave de l'humanité, nonobstant la crise économique mondiale qui a commencé en 2008 et qui n'a pas encore terminé, le Chili a pu renouer les fils de la croissance. Nous avons pu à nouveau créer des emplois. Par exemple, notre produit intérieur brut était d'environ 15 000 dollars il y a 4 ans. Il est aujourd'hui de 20 000 dollars par habitant. La pauvreté et les inégalités reculent. Les salaires réels augmentent vigoureusement et tous les instruments de mesure montrent que sur des éléments clés tels que la qualité de l'éducation et la santé, nous avançons dans la bonne direction en stimulant plus encore l'innovation, l'entrepreneuriat et en protégeant mieux nos consommateurs, nos travailleurs et en protégeant davantage la nature et l'environnement. Et ce faisant, nous sommes parvenus à reconstruire plus de 90% de ce qu'avait détruit le séisme et le raz-de-marée. Par conséquent, notre gouvernement s'enorgueillit de la contribution des politiques qu'il a menées pour atteindre ses objectifs. Mais nous savons fort bien que ce sont les Chiliens qui méritent également toutes nos louanges, car c'est grâce à eux que nous avons pu atteindre cet objectif. En effet, s'il est une chose que le Chili a appris, c'est que pour renouer les fils de la croissance, pour diminuer la pauvreté, pour effacer les inégalités excessives, il n'y a rien de plus efficace que la confiance dans les capacités de nos populations, l'élargissement des libertés et la mise à profit des forces de l'imagination, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et je suis sûre que c'est également le souhait de tous les habitants de la planète. Voilà, Monsieur le Président, certaines des réflexions et des leçons que j'ai voulu partager avec vous en tant que président du Chili, mais également en tant que citoyen du monde. J'ai voulu partager tout cela avec les chefs d'État et de gouvernement. Ce sont les enseignements, les réflexions d'un pays, peut-être de petite taille sur la scène internationale, mais un pays qui jouit aujourd'hui, grâce à l'effort de tous, d'une démocratie stable, robuste, de libertés publiques garanties et d'un système économique qui, après 2 siècles de vie républicaine, nous permet de frapper aujourd'hui à la porte du développement. Je vous remercie.
On behalf of the General Assembly.
Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Chili de son intervention. J'invite les représentants à rester à leur place.